Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Dugas.
Bonsoir à tous, on a un énorme programme pendant 2 heures, puisqu'on vous rediffuse les meilleurs moments de Tim Dugas jusqu'à 20h sur RMC. On va revenir sur Mitroglou, l'une des cibles préférées de Dugas en 4 ans. Ce sera tout à l'heure à 19h30. On va s'interroger sur le duel entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Klopp a-t-il ringardisé Guardiola au fil des ans? En plus de tout cela, Tony Parker était donc notre invité en milieu de semaine dans Tim Dugas. On l'a interrogé sur peut-être son futur rôle de président de l'Olympique Lyonnais en foot. Mais d'abord, on a débattu avec lui sur cette question. Peut-on réussir dans le foot sans venir de ce milieu? Le débat, c'était cette semaine avec Christophe Dugarry, Jérôme Rotten et Franck Leboeuf.
Et nous recevons notre invité exceptionnel, c'est Tony Parker, le futur président de l'Olympique Lyonnais. Carrément, je mets les pieds dedans. Comment ça va, Tony?
Ça va bien.
Quel honneur de te recevoir. Enfin, tu vas faire une vraie émission de sport, parce qu'avec les pieds nickelés, là, juste avant, là, c'est pas du sport, ça.
Ils m'ont dit, là, je fais Team Dugas, donc j'ai dit, j'ai augmenté là de level, là. Je suis passé au plus haut, là.
Avant Team Dugas, il y avait quand même le Tipeee Show sur RMC. Il avait
son émission. C'est vrai, le lundi soir, j'écoutais.
Le lundi soir, exactement.
Pendant 10 ans,
ouais. Et oui, moi, je l'ai fait, cette émission, hein. Vous savez, il y a 7 ans. Et oui.
Tu faisais quoi en tant que présentateur?
Ah ouais, bien sûr. Avant de faire Team Dugas, j'ai fait quelques Tipeee Show.
Ah, t'as fait des choses de qualité, alors?
Ouais, mais faut dire que j'étais en panique, sur le basket. C'était terrible. Mais bon, on était mieux sur le foot après.
Ouais. C'est qu'avec moi, t'en as rien à foutre. Ouais, vraiment, avec moi, ouais,
c'est pas la même chose.
Ouais, non, mais il est dans l'expérience, là, maintenant, tu vois, c'est facile pour lui, on voit que ça.
Tony, tu maîtrises mieux le basket.
Ouais, c'est ça, Jérôme, bien sûr.
Tony, ça te fait quoi, Tony, d'être avec un compatriote américain comme Franck Leboeuf?
J'ai regardé ce qu'il disait. Bah, écoute, on se remémorait nos moments, parce que je suis allé voir, j'ai la chance d'être invité par Tony chez lui.
C'est pas toi qui as posé la question, Franck. Merci beaucoup.
Ouais.
Mais quel enclume, celui-là, il commence fort. On a 2 heures à se faire, je te jure que ça va être une souffrance pour toi.
Ça repart comme hier avec Francky.
C'est Tony Parker qui reçoit Franck Leboeuf, c'est génial.
Non, je peux rien dire contre Francky. On se connaît depuis tellement longtemps et on l'avait bien accueilli avec ma famille. Je sais qu'il avait perdu quelques paris, mangé avec le papa, mon frère. Enfin, tu connais Francky, il connaît tout le monde, il connaît toute la famille.
Ouais. 50 dollars. Tony Parker qui est blindé m'a pris 50 dollars.
Ah bon?
Sans déconner, il m'a fait un pari. Il est sur le floor. On est à San Antonio, il est sur le floor. Il est assis. Sur le parquet.
Okay.
On est assis tous les deux. Il est à l'échauffement. Le mec est assis déjà, tu vois. Et il me dit, je te pose 50 dollars que assis, je le mets direct là. Il est sur le côté, hein. Je mets direct dans le panier. Je le aurai jamais. Je suis là direct. Un coup. Ah, oui. Un coup,
tu vois, t'as encore dit des conneries.
Non, je ne croyais pas aussi fort, tu vois. Je nettoie la table.
Tony, qu'est-ce qu'il aura manqué à Franck pour réussir aux États-Unis, tu penses?
Joker.
Voilà, bienvenue dans Team Liga.
Non, mais toi, t'as connu Hollywood. T'as connu Hollywood et tout. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il aura fallu à un moment. Il pouvait la carrière, l'acteur. Il fait l'acteur depuis 4 ans dans Team Liga. Comment il peut pas réussir aux États-Unis? C'est pas possible.
Aux États-Unis, c'est très politique. Très politique.
Il aurait fallu coucher, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu coucher.
Dugas, tu paries 50 balles avec moi que Francky ne va pas réussir à ne pas couper la parole pendant 2 heures?
Ah, à
c'est
qui?
Mort, ça.
Ça n'est pas à qui?
C'est mort, on les joue pas.
Ça n'est pas à qui?
À tout le monde.
À tout le monde?
Ouais.
On fait un pari. 50 euros.
Non, je joue pas.
Je te jure, tu vas cracher.
Tony, je sais pas si tu le sais, mais on est dans les derniers Team Dugas de l'histoire. Dans 10 jours, ce sera fini.
Ouais. Ah, ok, je savais pas.
Et oui, la retraite pour Dugas.
Oh, waouh. Wow.
Il a bien donné. Hein.
Il a bien donné, ça, c'est sûr.
Voilà. Ce que tu pourrais jamais faire, la retraite pour toi, Tony, c'est impossible.
Non, je suis un hyperactif, ce serait trop difficile.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il va faire,
Dugas,
pendant le reste de sa vie?
Parce qu'il est aussi hyperactif. Bah, je pense que le jardinage, déjà.
Le golf.
Tu crois, Jean-Louis, que je suis hyperactif?
Non, pas du tout.
Alors,
c'est une blague.
En fait, tu vas devenir énorme. Dans 2-3 ans, on ne reconnaît plus quand on le voit.
Je sais pas. Non, mais le jardinage, je pense, et l'écologie, ça va être ses deux passions maintenant.
Ah oui, oui, bah, avec le maire de Bordeaux.
Ouais, ouais, ouais. Tu vas habiter où, du gars? Tu vas prendre la retraite où?
Du côté de Marrakech, pour tout te dire.
Ah, waouh, ok. Ouais.
au soleil, je joue au golf.
Mais qu'est-ce que tu fais des maisons à Saint-Barth, New York, Bordeaux?
J'ai gagné 50 euros, moi.
Non, mais j'ai voulu acheter une maison à San Antonio, mais elle était trop chère. Donc, écoute,
les prix sont hauts là-bas, attention.
Ouais, il y avait.
Non, mais t'as pas le t-shirt I love San Antonio, tu vois, ça n'existe pas en fait.
D'accord, ok.
Duga ne met que des t-shirts qu'on lui file.
C'est bizarre parce que le portail, il y a eu un 13 sur le portail, donc écoute, j'ai visité, mais c'était beaucoup, beaucoup trop cher. Beaucoup trop grand.
Mais donc, l'événement de la première heure, c'est la présence de Tony avec nous. On a plein de questions sur ton rapport au foot, sur ton implication à Lyon, sur peut-être ton futur poste de président de l'Olympique Lyonnais. On en parlera tout à l'heure, mais on va commencer par un débat sur ces personnalités qui arrivent à réussir dans le foot sans connaître ce milieu. Ce sera peut-être ton cas un peu plus tard. Ça peut être le cas de Mourad Boudjelal s'il arrive à reprendre l'OM. On va en parler. Mohamed Bouafsi est avec nous. Bonsoir Mohamed.
Salut Dugas, salut Tony, bon, salut Francky, salut Jérôme.
Bonsoir.
Juste avant le débat, Mohamed, l'OM travaille quand même, malgré toutes les rumeurs autour de la vente du club, et tient sa première recrue.
Ouais, c'est une recrue qui ça a été une petite surprise pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille. On l'a su assez tard hier. Il était arrivé à Marseille pour passer la visite médicale. C'est Pape Gueye, le milieu de terrain du Havre. Alors je sais que je ne dois absolument plus dire le mot pépite du gars. Donc qu'est-ce qu'on dit ? On dit un prospect, on dit un joueur qui est un espoir du football français. Il était courtisé par plusieurs clubs. Il s'était engagé il y a quelques semaines avec Watford avant finalement d'entamer une rupture unilatérale parce qu'il était en conflit avec ses anciens conseillers. Il a expliqué qu'on lui a présenté un projet qui n'était pas le bon. Et il y a quelques semaines, il a annoncé cette information. Donc il y a beaucoup de monde qui s'est rapproché de son entourage, notamment plusieurs bons clubs européens. Et il y a une dizaine de jours, il a reçu un appel d'André Villas-Boas, qui a pris son téléphone, qui l'a appelé, qui lui a dit qu'il le voulait à l'Olympique de Marseille. Et ça s'est fait en une dizaine de jours. Et il est arrivé hier, il a passé la visite médicale et il s'est engagé pour 4 ans aujourd'hui.
Et il y avait une histoire de pré-contrat avec Watford, non ?
Oui.
Quel prix, Mohamed, excuse-moi ?
Il arrive libre. Il s'était engagé avec Watford. Et il y a un mois, il a fait cette rupture unilatérale de contrat. Et
il ne va pas y avoir un litige et l'OM ne va pas devoir payer Watford.
Alors, selon on a contacté RMC Sport un juriste du gars qui est proche de la FIFA et qui s'occupe souvent de ces dossiers de conciliation entre les joueurs et les clubs qui se sentent parfois un peu lésés et les clubs qui reprennent les joueurs. On a vu cette situation notamment au Sporting Portugal avec des joueurs qui étaient partis, Leao, Gelson Martins, etc. Il y a quand même très peu de chances, voire quasiment aucune chance que l'OM ne soit impacté par cette situation, puisque Watford peut entamer des démarches auprès de la FIFA et c'est surtout le joueur qui risque des choses, sanctions sportives ou financières. Mais là, Watford a tout intérêt à entamer des démarches avec l'Olympique de Marseille pour trouver un accord à l'amiable. On sait que sa valorisation était autour de 5 millions. On peut se dire que si vraiment Watford montre les muscles, ça peut se finir à peut-être 1 800 000 euros, ces montants-là. Mais vraiment, c'est une belle opération. Il arrive libre.
C'est chouette.
C'est un très bon deal réalisé par l'Olympique.
Il a quel âge ?
Bravo Jacques Henriero.
24 ans ?
Non, 21 ans.
21 ans. 21 ans. Ah, c'est bien.
Oui, super. Super.
Un gars à Paris, un gars à Marseille. Ça peut être intéressant, ça fait une belle réalité. Ouais. À voir, tu vas rigoler. Oui,
très intéressant, ça, mon Franck.
Merci, bravo.
Non, ça va
Jérôme, plus tu es là, Jérôme ? Tu en penses quoi ?
Bravo, Franck.
Merci.
Merci, Mohamed. Mohamed, reste avec nous parce qu'on va aborder le dossier qui passionne Marseille, donc une éventuelle vente du club. Avec donc ce groupe d'investisseurs issus du Moyen-Orient, mené par le franco-tunisien Mohamed Ajroudi, qui a présenté son projet d'ailleurs dans les médias, on va pouvoir y revenir. Le patron opérationnel dans ce projet, ce serait Mourad Boudjelal, qui a connu de belles réussites dans le rugby. Alors on profite de la présence de Tony aussi avec nous pour se poser la question, comment réussir dans le foot sans connaître ce milieu ? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Vous qui avez joué du gars Francky, Jérôme, vous en avez vu des présidents arriver qui ne connaissaient pas forcément le foot. Dans ces cas-là, comment on fait, du gars ?
Oh mon poulet, cette question, il y a juste 2 heures d'émission. Je ne sais pas, je pense que déjà le management est quelque chose de très, 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 très difficile et compliqué. Que ce soit dans n'importe quel sport ou n'importe quelle entreprise, c'est difficile de diriger des gens. Le football et le sport de haut niveau en particulier est une entreprise à part, puisque les salariés sont souvent plus payés que le patron lui-même. Donc c'est compliqué. Après, je pense qu'il faut être extrêmement intelligent, avoir une vraie sensibilité humaine au rapport humain, parce que c'est important. On demande à des sportifs de se dépasser, de se surpasser pour aller gagner des matchs, pour aller gagner des compétitions. Le rôle mental est très 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 important dans le sport de haut niveau. Voilà, il y a des salariés à gérer. Moi, sincèrement, je crois que le rapport humain est quelque chose qui est qui est déterminant parce que tu t'engages dans t'as des contrats à plus ou moins courte durée et tu t'engages sur des objectifs et je pense que il faut être extrêmement intelligent, il faut respecter des codes, il y a des codes à respecter, le football est quand même très compliqué, la façon dont fonctionne notamment le rôle des agents est quelque chose de très compliqué, très nébuleux.
Et très propre au foot. Parce que même si t'as une sensibilité qui vient d'un autre sport, oui, ça c'est quand même un truc à appréhender.
Tu as raison, moi Jean-Louis. Et puis il fonctionne de manière différente dans les pays. C'est-à-dire le rôle des agents, par exemple en France, est totalement différent des rôles des agents, des autres agents à l'étranger qui ont beaucoup plus de liberté. C'est compliqué. Il faut garder une honnêteté, forcément aussi, parce que le football est extrêmement surveillé également. Donc voilà. Mais il faut pas penser qu'il y a que les gens du foot qui réussissent dans le football. Je trouve ça totalement ridicule de penser ça. Il faut avoir une faculté d'adaptation.
C'est des gens qui travaillent bien en général, quoi.
Exactement. Quelqu'un qui travaille bien, qui est intelligent, qui travaille beaucoup, qui a un rapport humain fort, il réussira dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Moi, j'ai aucun doute là-dessus.
Jérôme, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ouais, bah, je suis sur la même lignée que tu gars sur le fait que les présidents ils sont pas obligés d'être des anciens sportifs de haut niveau, surtout dans le foot. Ça peut être des chefs d'entreprise, on en a vu, moi j'en ai connu aussi des présidents qui connaissaient pas grand-chose au football quand ils sont arrivés et qui ont fait des très bonnes choses parce que déjà le fait de s'approprier un petit peu le club, de faire avancer le club, d'avoir des réelles ambitions, ça tu le transmets aussi à tes joueurs, à ton staff. Le tout, c'est quand tu viens pas du milieu du foot, c'est aussi de bien s'encadrer. Les personnes les plus importantes après le président, bien sûr, c'est un directeur sportif, c'est un entraîneur, c'est d'avoir tout le monde un petit peu sur la même ligne, avec la même ambition, le même projet. On le voit trop ces derniers temps que les projets diffèrent à l'intérieur des clubs aussi et des personnes qui sont en place. Donc c'est ça, c'est d'être bien entouré pour après ressortir le maximum. Je pense qu'il faut pas non plus voir la fonction de président comme le président qui va décider de tout sportivement, de ce qui se passe sur le terrain.
Savoir déléguer, savoir faire confiance aussi.
Mais oui, exactement.
Aussi, un président aussi, c'est choisir les bonnes personnes et les laisser travailler. C'est aussi ça un bon président. Okay.
De toute façon, je pense que la plupart des gens qu'on a vus à la présidence de tous les clubs dans toute l'histoire du football français sont en principe des gens qui comprennent rien au football. Ils sont été des chefs d'entreprise. Mais dernièrement, quel est l'ancien joueur qui est devenu président d'un club ? Il y a Marc Keller. Oui. Mais après, je cherche sur des grands clubs qui sont devenus.
En Allemagne, au Bayern de Munich.
Ouais, voilà.
Mais après, tu peux connaître le foot et son fonctionnement sans avoir été un grand joueur.
Ouais, même Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, c'est un grand chef d'entreprise qui, au départ, quand il partait dans le vide. Bernard Tapie, je suis désolé, c'est pas ça, il était un grand président. C'est, je suppose que Monsieur Bess, c'était pareil.
Si tu veux, Laurent Nicolin, par exemple, il a baigné dans le foot pendant des années avec son père et ça lui a permis de faire une transition facile.
Ouais. Mais je dirais que la majorité des présidents ont été surtout des chefs d'entreprise et surtout pas des sportifs ou des anciens footballeurs. Donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Et encore une fois, par rapport qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Je suis d'accord avec la dernière phrase de Christophe, c'est surtout savoir déléguer et prendre les gens de confiance, essayer au maximum d'avoir des gens de confiance, même d'être auprès des joueurs pour sentir comment ça se passe, comment ça se passe.
Après, peut-être que Tony, il y a un truc avec toi qui est différent, c'est d'avoir la sensibilité quand même du sportif de haut niveau. Ça, tu sens quand même que tu fais la différence grâce à ça quand tu es chef d'entreprise.
Déjà, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, pour moi, le plus important, c'est ta passion en fait et ta faculté à fédérer les gens et les emmener, on va dire, dans un objectif ou dans une ambition. Parce que quand t'es dans le sport, c'est une aventure humaine, avant tout. Ce qu'il faut pas compter ses heures. Il n'y a pas de secret si tu veux réussir dans le sport. Après, c'est vrai que quand moi je vais parler par rapport à tout le crédit que j'ai eu par rapport à ma carrière et ma réputation en fait de bosser dur, je peux parler, on va dire, à n'importe quel sportif. Et en plus, le foot, si on connaît bien les joueurs, ils adorent tous le basket. Ouais. Et nous, le basket, on adore tous le football. Donc déjà, il y a toujours eu ce lien en fait entre les footeux et les basketteurs. Et après, pour moi, c'est juste, faut juste travailler, quoi. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu montres à tous ceux avec qui tu vas bosser quand tu arrives dans l'équipe, de montrer que tu sais ce que tu fais, donc tu te prépares.
Moi, je suis quelqu'un qui se prépare énormément. Oui. Il y a des gens, Tony, qui travailleront toute leur vie et qui n'auront pas ce charisme, ce leadership pour amener, comme tu
dis. Mais ça, Duga, ça c'est sûr. Il y en a, ils l'ont voilà. et ils l'ont pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas travailler. Avoir du charisme, comment tu vas parler avec les gens. L'humain, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très, très important parce que c'est très, très dur de gérer les égos de tout le monde, les égos des athlètes. Mais après, il n'y a pas que le sportif aussi. Il y a tout le reste, le marketing, les fans. Enfin, il y a 50 000 trucs à gérer dans un club que j'ai déjà fait depuis longtemps avec le basket et maintenant avec le foot, on va dire c'est x20, x50, surtout en France parce que le foot c'est le sport numéro un. Mais moi je suis baigné dedans depuis que je suis tout petit, à travers mes amitiés avec différents footballeurs et j'ai la chance voilà d'avoir quelqu'un comme Olas qui est prêt à me prendre sous son aile et de montrer on va dire tous les aspects club-là parce que tu vois ce club-là il est coté en bourse, enfin il y a plein de choses. Gérer l'OL c'est pas que le club de foot, c'est pas que le sportif et du gars, elle a dit quelque chose qui est très très intéressant, c'est de savoir déléguer aussi et de savoir bien s'entourer. Pourquoi moi je fais autant de choses, c'est parce que je suis très très bien entouré. Et ça, des fois, les gens ils ont du mal à déléguer. Et c'est pour ça que des fois il y a des boss qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils veulent tout contrôler. Et c'est ça le problème. Moi je veux pas tout contrôler. Moi je veux juste avoir une vision parce que l'OL Group c'est pas que le foot. Peut-être demain c'est le basket, le tennis, le e-sport. Et c'est d'avoir une vision globale, de porter le projet. Mais après dans le foot, bien sûr, si demain j'y suis à 100%, la première chose que je ferais, c'est d'essayer de me bien m'entourer et de prendre des têtes pensantes football.
Mais justement, est-ce que tu n'as pas été surpris de la démarche du président Olas qui, on le sait, d'ailleurs ça a plutôt bien fonctionné, c'était un grand président, a eu du mal à déléguer, a eu du mal à laisser de la place aux autres de venir te voir comme ça. Tu penses qu'il déléguait pas assez justement parce qu'il n'avait pas trouvé la personne idoine
qu'est-ce qui l'a inspiré à venir me voir et me proposer on va dire ce poste-là. Mais c'est vrai que moi depuis que je suis à l'ASVEL, moi j'ai souvent délégué parce que déjà j'étais aux États-Unis la plupart du temps, même si je suis sur FaceTime tous les jours et je parle à tous mes employés tous les jours, j'étais bien obligé de déléguer et de faire confiance.
Comment tu as réagi quand le président Olas t'a proposé de t'accompagner? Ça a dû être une surprise.
J'étais surpris, mais en même temps, ça m'a fait chaud au cœur qu'il voit ça en moi, parce qu'il me voit bosser tous les jours depuis qu'il est plus impliqué dans l'ASVEL, parce qu'ils ont pris 35% de mon club. Il voit comment je suis en fait au quotidien. Et donc, pour moi, maintenant, je le prends très au sérieux, parce que je sais que pour lui, quand tu as eu un club plus de 30 ans, il ne veut pas le laisser à n'importe
qui.
C'est
son bébé.
On a l'impression qu'il arrive à déléguer dans toutes les autres sphères qui ne sont pas l'OL masculin, équipe première, où là, c'est quand même son truc.
Ouais, bien sûr, mais je pense que jusqu'au bout, tu peux toujours progresser. Et là, la façon, en tout cas, qu'il communique avec moi et comment il montre le club, là, il est prêt à déléguer.
C'est pas facile. Moi, j'ai eu mon émission pendant 4 ans, j'ai pas voulu la donner à Jérôme ou à Franck.
Toi, t'as bien délégué sur le programme et sur le reste.
Il faut aussi signaler qu'il a été déçu à plusieurs reprises quand il a essayé de déléguer. Il a essayé de déléguer avec Claude Puel, il a été déçu. Il a un petit peu délégué avec Juninho au début sur le sportif.
Oui, mais est-ce qu'il a vraiment délégué à ce moment-là? Ou est-ce qu'il n'était pas quand même
franchement délégué? Il ne faut pas oublier un truc, c'est que pourquoi il a réussi autant Jean-Michel Aulas dans le football français, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais il délègue depuis plusieurs années déjà beaucoup d'aspects, mais il ne délègue pas la communication. Ouais. Et sinon, on peut parler, par exemple, Tony doit le connaître, d'un homme, il n'est pas connu par le grand public, il s'appelle Vincent Panceau, qui est le directeur juridique de l'Olympique Lyonnais, qui s'occupe de tout le quotidien et qui est l'un des hommes les plus compétents et talentueux en France.
Oui. Donc il a délégué
avec des gens compétents et parfois
pris les mots, hein, parce qu'il délègue.
Hein. Il délègue, mais on le voit pas. Parce que le seul élément qu'il veut pas déléguer, c'est la com. Et d'accord, on le voit trop parfois sur ça.
Juste une remarque par rapport à la position de Tony. Ce qui est intéressant, parce que moi je le connais un peu avec Marc Keller, qui est le président du Racing Club Strasbourg. Les sportifs de haut niveau, on va avoir quelque chose de plus, c'est que lui, sans se mêler du terrain, il va le ressentir, le terrain, ce qui se passe avec les joueurs, l'ambiance du vestiaire, la souffrance d'un joueur ou tu vois le trop plein de confiance, tout ça il va le sentir, il va pouvoir en discuter avec. Et ça c'est vachement important, parce que on se dit souvent les présidents, non vous occupez pas du vestiaire. Mais quand tu as l'expérience de quelqu'un qui a fait un sport collectif et un sport de haut niveau, il va sentir des choses qui m'ont rapporté.
Ouais. Oui, mais du coup, quel est le rapport avec l'entraîneur? Est-ce qu'il va pas changer? Parce que Évidemment, toi, tu vas avoir envie peut-être à un moment d'entrer dans le vestiaire, de communiquer davantage avec ton entraîneur qu'un président
normal.
Et
mais
pourtant,
non,
c'est peut-être pas ce qu'il faudrait.
En fait, moi, par rapport à ce que Francky dit, il y a des similitudes. Parce que je viens d'un sport co, donc il y a des similitudes. Mais après, je vais pas prendre la place du coach. Même au jour d'aujourd'hui, alors que j'ai été champion NBA, je ne vais jamais intervenir au niveau du coach, les systèmes qu'il veut mettre en place.
Ça,
je viens pas.
Mais
moi, je viens plus avec un joueur si, comme il vient de dire Francky, il est en manque de confiance. Je le sens qu'il est pas bien, qu'il joue pas son jeu. Moi, je vais plus parler sur tout ce qui est aspect mental. Parce que pour moi, c'est le mental le plus important. C'est ce qui fait la différence. Le coach, il va faire ce qu'il peut. Mais après, moi, je pense que le rôle du président, s'il faut remettre un coup, et surtout quand t'es légitime par rapport à moi, par rapport au basket, bien sûr que moi, je vais l'aider. Mais par contre, j'irai jamais lui dire, oh, t'aurais dû faire ce changement là ou ce changement là. Ça, moi, je laisse toujours la place au coach.
J'ai une petite question.
Après, quand même, je suis d'accord avec vous, mais tous les anciens sportifs sont pas capables de ça. T'as l'impression, tu parlais tout à l'heure, on peut aussi parler de Marc Keller, qui est un garçon aussi brillantissime. T'as l'impression que même Tony, ils ouvriraient une friterie, ça marcherait. Au bout d'un moment, il faut avoir aussi cette sensibilité de parler aux joueurs, parce que tu sais, comme on le dit, il y a beaucoup d'anciens grands joueurs qui ont essayé de d'épouser la carrière d'entraîneur, et au bout de 3 mois, leur carrière, elle sert plus à rien du tout, quoi. Si tu leur dis pas des trucs intéressants, des trucs intelligents, des trucs qui va les concerner, ça va au-delà de ça. Il suffit pas d'avoir été ancien sportif de haut niveau pour trouver les mots, pour avoir cette sensibilité qui est...
Thierry Henry a eu du mal, par exemple, à Monaco.
Peut-être un petit peu. Effectivement.
En même temps, il a pas eu beaucoup de temps.
Ouais, c'est vrai aussi.
Moi, j'ai une petite question.
Tony, il n'a pas eu beaucoup de temps, mais ça fonctionne comme ça. Tu n'as pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que la première impression ou les premiers mois sont décisifs dans ce genre de choses.
Surtout sport de haut niveau.
Puisqu'on parle, on parle de. Alors, j'ai pas suivi, mais si tu prends la présidence de l'Olympique, qu'est-ce qui se passe de la présidence de l'ASVEL?
Il faudra trouver quelqu'un d'autre.
Tu arrêteras automatiquement. Tu ne feras pas les deux.
Il y a un calendrier, Tony, dans ce passage.
Alors attends, on abordera ça juste après, parce qu'on va le cuisiner, t'inquiète pas. Juste Jérôme, tu voulais ajouter un mot sur le débat là?
Non, j'écoutais. Non, il n'y avait pas de souci. On parlait de Thierry Henry. Il disait qu'il n'avait pas eu le temps à Monaco. Oui, en effet, on lui a pas laissé beaucoup de temps. Mais malheureusement, dans le foot, et ce que Duga disait, dans le foot aujourd'hui, on n'a pas de temps, quoi. Il faut avoir des résultats, malheureusement, tout de suite. Et contrairement à beaucoup d'autres sports, dans le foot, c'est indéniable. Si l'entraîneur ou si l'équipe dirigeante, elle a pas de résultats, en général. C'est mal parti, c'est tout.
Exactement. On revient dans une seconde avec donc Tony Parker dans Team Duga, le futur président de l'OL. On lui pose toutes les questions.
Ça va être chaud, Tony, prépare-toi.
Il faudra notamment qu'il nous raconte le coup de fil qu'il a passé au jeune Kaloulou, qui finalement est parti à Milan. Ouais,
ça a bien marché, bravo, Tony.
Allez, à tout de suite, et on remercie Mohamed Bouafsi. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
Le journal moyen sera là dans un quart d'heure à 18h45 pour se remémorer les meilleurs moments du journal moyen d'Adrien Aigouin. On va également entendre un débat sur le modèle niçois. Est-ce le modèle à suivre pour tous nos clubs de Ligue 1? C'est la vie de Duga depuis des années. Mais d'abord, l'interview, les yeux dans les yeux, avec Tony Parker, peut-être le futur président de l'Olympique Lyonnais. C'était mercredi dans Team Duga, avec Franck Leboeuf, Jérôme Montaigne et Christophe Dugarry. Duga, ça y est, je te le laisse, les yeux dans les yeux. Donc, tu es avec Tony Parker, le futur président de l'OL.
Le président arrive, dites-leur de retourner s'asseoir.
Welcome, are you okay?
Je pense que le fait de penser à l'impossible et d'avoir de grands rêves résume bien, en fait, ma carrière, ma vie.
Bienvenue à bord, monsieur le président. Are you happy to be here?
Moi, je connais l'importance de ce rôle.
Monsieur le président.
J'ai encore beaucoup d'ambition.
C'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
D'ici, on peut diriger tout le pays.
On y pense pour faire de la ville de Lyon une place forte du sport français.
Comme vous voudrez, c'est vous le président.
Bien sûr, il faut être un peu fou.
Je voulais introduire cette conférence par une réflexion que faisait DJ Snack.
Quand tu parles avec ton cœur et quand t'es passionné, je pense que là, tu peux pas tricher.
ils ont sorti le DJ Snack.
Le DJ Snack, t'es obligé. Vas-y, Duga.
Bon, Tony, dis-nous, est-ce qu'il y a un planning pour reprendre la date exactement, ou quand est-ce que tu dois prendre la présidence de l'Olympique Lyonnais?
Les premières discussions avec Jean-Michel, c'était genre dans 3-4 ans, mais après, il n'y a pas une date précise.
D'accord.
C'est-à-dire que là, il te prend sous son aile, mais t'apprends quoi au quotidien? Ça se passe comment, votre relation? Est-ce que dans les discussions pour le recrutement, par exemple, est-ce qu'il te dit, il te parle de tout dans le club, comment ça fonctionne?
On parle de tout. On parle de tout, en fait. Donc, il n'y a même pas un truc précis, c'est on parle de tout en général.
D'accord. Et si s'il y avait un changement d'entraîneur, un joueur à faire venir, il te demanderait ton avis.
Ouais. D'accord. Parce que tu fais partie du conseil d'administration en plus de l'OL, donc forcément, ouais, t'es amené à réagir sur tous les sujets. Et donc déjà à peser, tu sens déjà que ton avis est écouté. Et ouais,
j'ai l'impression que voilà, il me, bah, bien sûr qu'il me respecte et que ça va dans les deux sens et qu'on a vraiment créé une relation privilégiée et qui me fait confiance tout simplement.
T'as pas réussi à lui faire comprendre pendant la crise là qu'à un moment fallait passer à autre chose et
je suis pas rentré dans ça, mais après si tu connais le personnage et comment il a réussi ces 30 dernières années, tu sais très bien qu'il va pas lâcher l'affaire.
Ah bah nous ce qu'on disait c'est si sur le terrain ces joueurs étaient aussi acharnés que lui en dehors, il y aurait moins de problèmes sportifs. Ah bah
ça c'est sûr.
Et est-ce qu'il y aura une autonomie à plus ou moins courte échéance de ta part qu'il lâchera complètement l'affaire?
C'est une très bonne question. Après, on verra comment, enfin, on va dire les conditions qu'il va mettre dans 3-4 ans. Mais pour moi, j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à apprendre que plus il reste, mieux c'est pour moi.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce coup de fil donc au jeune Pierre Kaloulou, qui est un jeune formé à Lyon? On connaît les Kaloulou, hein, il y en a eu 4 qui sont passés par le centre de formation. Oui. Les deux premiers sont partis. Et le père notamment de la famille Kaloulou s'est dit, bah, de toute façon, à Lyon, ça marchera jamais pour mes gamins. Et donc, le dernier s'est engagé avec le Milan, Pierre Kaloulou, donc le défenseur latéral, alors que l'OL voulait lui proposer un premier contrat et lui faire confiance. Mais ça ne passait pas avec la famille. Du coup, tu as été amené à l'appeler pour essayer de lui faire changer d'avis.
C'est ça. Ça, Jean-Michel, il m'a appelé, savoir si je pouvais appeler Pierre. Et donc, on a eu une super conversation. On a discuté pendant 45 minutes. Et c'est vrai que c'était un contexte pas facile, pas un choix facile pour lui par rapport à ce qui s'est passé avec les deux frères.
C'est ça. Okay.
Et donc, pour moi qui vient d'arriver, c'est pas facile aussi de genre donner des promesses ou quoi que ce soit. Donc, à la fin de la journée, moi, je suis vraiment content pour lui. Il a pris la décision qu'il pense qu'est le mieux pour lui. Et donc, après, il m'a envoyé un texto super gentil après, et on va rester en contact parce que tu sais jamais ce qui peut se passer à l'avenir. Un jour, il peut revenir. C'est une famille quand même qui a eu pas mal de joueurs dans le club. Donc, je pense que il faut rester positif et tu sais jamais ce qui peut se passer.
T'as envie de faire quoi de l'OL, Tony? Jusqu'à quel niveau peut aller l'OL? Est-ce que l'OL aura les moyens, plus de moyens? Comment les choses peuvent évoluer favorablement pour ce club?
Bah déjà, ils ont gagné beaucoup de titres dans les années 2000. Là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a eu un titre de champion de France. Et après, bien sûr, Champions League, ça reste toujours un objectif très très important pour l'OL. Donc, je pense que c'est d'essayer de ramener le titre de champion de France et de continuer à faire grandir le club. Je pense qu'avec le nouveau stade, une fois que tous les remboursements ont été faits, on pourra avoir plus de moyens à mettre dans le sportif. Donc, je pense qu'il faut continuer à être patient. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour aller dans ce sens-là. Et je pense que voilà, dans les 3-4 ans, on pourra essayer de construire une équipe encore plus compétitive.
Jean-Michel Aulas, tu n'as pas demandé d'appeler Memphis Depay de la même façon qu'avec Kaloulou, qu'il est un an de la fin de son contrat?
Non.
Tu rachètes un moment là. Oui, vas-y, du gars.
Tu rachèterais les parts de Jean-Michel Aulas ou tu serais un président délégué?
Bah, pour l'instant, je pense que tout est ouvert. Tout est ouvert. Moi, je serais intéressé. Je pense qu'en tout cas, pour être légitime, c'est important d'avoir des parts. En tout cas, moi, je me vois pas accepter ce job et que je suis pas actionnaire aussi. Je pense qu'à un moment donné,
oui, tu veux prendre les risques avec.
Bien sûr, quand tu crois dans un projet, pour moi, il faut investir. Et moi, c'est clair que investir dans ce club-là, bah, avec plaisir.
Tu aurais justement des investisseurs derrière qui pourraient faire passer le budget du club?
Bien sûr. Moi, j'ai déjà des idées en tête, ouais, surtout pour le développement qu'on veut faire avec Jean-Michel à l'international. Ça, c'est clair qu'on a pas mal de fonds, pas mal de groupes qu'on a en tête. Et on a déjà commencé avec le premier pas, avec le rachat du club féminin à Seattle. Et on a encore pas mal de choses qu'on veut mettre en place.
Des fonds d'investissement dans le foot, ça marche pas vraiment. C'est des fonds qui sont là pour faire 15% de rentabilité.
Ça dépend, voilà, ça dépend ce que tu leur proposes, mais c'est surtout ce qu'on va proposer à l'international. Donc, je pense que là, on pourra intéresser des fonds.
Tony, tu le disais tout à l'heure, les joueurs de foot adorent la NBA. Enfin, ils sont très nombreux dans ce cas. On en a en tête des internationaux français comme Griezmann, comme Mbappé. Est-ce que il peut pas y avoir une certaine dérive à ça, dans le sens où on a l'impression qu'en se basant sur le modèle NBA, certains joueurs de foot pensent beaucoup plus à leurs stats que ça pouvait être le cas avant, et une petite dérive vers l'individualisme. Alors peut-être qu'en basket, les choses sont dans la culture, sont très différentes et sont installées auprès de tout le monde de penser qu'à ses stats ou à beaucoup à ses stats. Est-ce que ça peut pas être une dérive dans le foot, ce modèle-là?
Je pense qu'on a les mêmes problèmes dans le basket.
Ah oui.
Je pense que tous les sports co, la clé pour avoir une bonne équipe, c'est de créer, on va dire, un collectif où les joueurs pensent que qu'au résultat final, qui est de gagner des trophées. Et c'est à toi de bien faire tes devoirs et de bien recruter et la mentalité des joueurs pour voir s'ils pensent plus à l'équipe que on va dire.
Et ça, tu trouves que ça a changé par rapport à la génération précédente?
Non, je pense
précédente
que ça, c'est toutes les générations. Je pense que toutes les générations, tu gères ça. Et les grandes équipes, c'est ceux qui arrivent à mettre leurs égos de côté.
Peut-être une première fois, je suis pas d'accord avec lui, mais je pense que le Ballon d'Or, par exemple, qui est vraiment devenu quelque chose de très important dans notre monde du football, n'était pas une priorité il y a encore, une vingtaine d'années. Mm-hmm. Ça le devient. On a l'impression qu'il y a même des joueurs qui sont complètement obnubilés par ça, hein, mm-hmm. Tony Parker.
Je pense que c'est parce qu'il l'annonce maintenant. Voilà, ils le disent carrément publiquement. Mm-hmm. Mais je pense pas que quand tu jouais il y a 20 ans, que les joueurs ils pensent pas à eux d'abord, surtout quand t'es jeune, tu sais, t'arrives, tu veux prouver, tu veux gagner ta place, et après quand tu vieillis, tu penses plus à l'équipe.
Mais
j'ai envie de dire, c'est humain en fait, Francky.
Oui.
Très bien, Tony, merci beaucoup d'être venu dans Team
Duga. Merci Duga pour l'invitation, Francky. Salut Tony, au plaisir.
Voilà pour l'interview de Tony Parker. Tout de suite, le modèle niçois, le club de Nice, est-il un modèle de travail sur tous les plans, recrutement, communication, politique, sportive? C'était cette semaine avec Mohamed Bouafsi pour les infos, coach Courbis, Franck Leboeuf et Christophe Dugarry. Ah. Mohamed Bouafsi est de retour avec nous, on va parler de Nice, mais juste avant quand même, Duga, sache que tu ne peux plus candidater pour le poste de Head of Business de l'Olympique de Marseille.
Ah, ils l'ont trouvé?
C'est fini. Ça y est, ils ont trouvé. Il s'appelle Hugues Ouvrard.
Non, on va arrêter de dire Head of Business quand même.
Pourquoi?
Parce que c'est sur le communiqué, c'est directeur délégué, directeur général délégué.
Mais pas sur LinkedIn?
Non, sur LinkedIn, c'est resté Head of Business.
Ah bah, alors, moi, je reste sur Head of Business.
Je suis sur LinkedIn, moi.
LinkedIn.
Ouais. Qu'est-ce que ça fait?
Bah non, mais je sais pas, LinkedIn. C'est comme Tottenham, LinkedIn.
D'accord.
Voilà. Ouais. On parle anglais ou on parle pas anglais? Vous voulez parler anglais?
Je savais pas qu'il y a le Wall Street Institute à table.
Ouais. Allez, vas-y, enchaîne.
Wall Street Institute.
Mais c'est gênant, c'est gênant.
Ouais, c'est gênant.
Mais on est habitué.
C'est gênant parce que vous savez pas parler anglais, mais c'est pas grave.
On peut parler de lui, Mohamed. Donc il était chez Xbox.
Oui, chez Xbox.
Xbox.
Arrête, t'as l'air surpris. Xbox, tu connais, t'es très jeune encore. C'était Roland qui me parlait comme ça des Xbox.
Je
connais. Non, il est passé à l'OM il y a quelques années parce qu'il avait participé à la création d'OM TV. Il est passé par SFR, il est passé par Xbox, par Canal+. Et donc, il arrive à l'Olympique de Marseille en tant que directeur général délégué. Il ne touchera pas à tout l'aspect sportif et l'aspect footballistique. Et voilà. Et donc, il va se lancer dans sa mission dans les prochaines heures et ça démarre. Après, les réseaux sociaux sont très durs.
Oui, alors il a juste un problème, c'est qu'il n'a pas nettoyé son compte Twitter.
Ouais, il fallait nettoyer son compte Twitter avant de démarrer son aventure à l'Olympique de Marseille. Il y a quelques tweets du gars où il explique qu'il aime bien le PSG et ça a été retrouvé. Magnifique. Mais faut dire aussi qu'il n'y a pas besoin d'être supporter d'un club quand on est dans une fonction de ce genre. Si c'était le directeur.
C'est même mieux maintenant. Hein. Maintenant, de toute façon, c'est mieux parce que tout le monde est comme ça. Donc autant être supporter d'une autre équipe, autant travailler dans un club.
Ça aussi, Romain de Bordeaux, c'est le cas. C'est pour ça
que voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais c'est pour ça. Ils sont tous supporters d'un autre club que les Girondins de Bordeaux et pourtant ils y bossent. Ah ouais, non mais c'est fou.
Non mais Languépé, supporter de quelle équipe?
Non mais ce que je voulais dire du gars,
ouais,
c'est qu'il y a
PSG, ouais, c'est vrai.
Non mais il a travaillé au PSG, mais ce que je veux dire, c'est du gars, je connais des supporters de l'OM qui bossent au PSG par exemple. Voilà, parce que j'ai pas envie de leur faire des problèmes, mais
ouais, bien sûr. Non mais je suis pas surpris, Mohamed. Ouais. Je suis pas surpris.
C'est vrai.
C'est la nouvelle tendance.
Football va pas bien.
On connaît même des journalistes, enfin bon bref. Alors on enchaîne sur Nice, donc puisque depuis longtemps du gars tu nous parle de ce qui se passe à Nice, de la politique sportive du club, quoi.
Ouais, vas-y, enchaîne.
Que c'est un modèle pour toi, ce qu'accomplissent Jean-Pierre River, Julien Fournier, et ce qui se passe depuis quelques jours peuvent te conforter là-dedans, notamment sur le mercato. Mohamed, 5 recrues déjà à Nice. Hein.
Oui, et des recrues assez importantes. On peut citer l'international français Morgan Schneiderlin qui arrive du côté de Nice pour 2 millions d'euros seulement. Donc c'est une belle opération. Il voulait absolument revenir en France et donc il a su trouver ce projet niçois et surtout l'envie de jouer le top et le haut du tableau en France. Donc ça s'est bien passé avec les dirigeants niçois. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que Julien Fournier et Jean-Pierre River étaient sur ce dossier. On peut aussi évoquer Hassan Camara. Il avait plusieurs offres. Tu sais, Dugas, c'est le joueur du Stade de Reims. Il était courtisé par plusieurs bons clubs anglais, pas des très gros clubs, mais plutôt plusieurs bons clubs anglais. Il a préféré rester en France. Donc ça travaille bien à Nice. On peut aussi parler d'un espoir qui arrive en provenance du Bayern Munich, qui n'avait pas signé son contrat pro avec le Bayern Munich. Il a préféré signer son contrat pro avec le GC Nice. Et je peux te dire qu'ils étaient assez agacés de le perdre au Bayern Munich, mais le joueur, lui, voulait jouer. Tout de suite jouer, et donc il s'est dit je vais plutôt trouver ma place à Nice plutôt qu'au Bayern. Donc ça travaille plutôt bien. On peut aussi évoquer l'envie de réaliser d'autres coups. On peut parler de
sur les 5 recrues, on peut parler d'un tarif de combien là, parce que 2 millions Schneiderlin, les autres ça en a combien pour avoir recruté 5 joueurs, combien d'argent?
Je vais vérifier tout de suite un seul transfert, celui de Camara, parce que j'ai un petit doute, mais en tout cas c'est sur des enveloppes, c'est des enveloppes qui sont assez on veut faire des opérations à petit profit, c'est pas des gros transferts, mais tu vois.
Schneiderlin 2 millions, ouais, le garçon qui a 30 ans, avec le passif qu'il a, la carrière qu'il a.
Camara, c'est 4, voilà. Donc c'est un deal qui est assez intéressant. Le seul transfert qui est un peu cher, c'est Guiri, parce que là aussi, on peut parler de prospect. Il arrive depuis Lyon pour 7 millions d'euros. Ça, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup évolué en Ligue 1, donc ça, c'est assez cher. Bambou, Rotsheim Bambou, il arrive depuis l'Atlético Paranaense. Lui, c'est un gros espoir aussi du football brésilien. Il arrive pour 7 millions aussi d'euros. Ça travaille bien, quoi.
En fait, ce qui est beau, d'accord, du gars, c'est d'arriver à faire des coups alors qu'on sait qu'ils ont les moyens, Nice, maintenant.
Bah, c'est là que c'est encore plus fort. Il pourrait dépenser plus, voilà, pour faire des gros coups, pour faire du buzz, et puis pas du tout. Ça continue à travailler de la même façon, de la même manière. C'est pour ça que on est toujours en train de débattre ou de parler de moyens. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de projet. Quel projet tu veux mettre en place? Ça sert à rien de vouloir. Regarde l'Olympique de Marseille, ils ont dépassé 250 ou 300 millions d'euros depuis que Macourt est arrivé. Pour quel résultat? Il est pas là, le sujet. Le sujet, il est pas de mettre de l'argent. Le sujet, il est de bien travailler et de travailler d'une certaine manière. Voilà. Après, des fois, ça va fonctionner, des fois, ça va moins bien fonctionner, mais au moins, tu as une stratégie. Tu te tiens à cette stratégie. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est passionnant dans la façon de travailler. C'est pas parce que demain matin tu vas gagner au loto que tu vas faire n'importe quoi. Tu vas exploser tous les budgets avec malheureusement aucune garantie que les choses fonctionneront mieux. C'est rarement en adéquation. C'est pas plus tu vas mettre d'argent, plus tu vas gagner de l'argent. C'est pas aussi, c'est plus tu vas gagner de matchs. C'est pas aussi simple que ça. Et il faut sortir de cette logique-là, parce que ça n'est pas une logique de foot sportive. Alors, ou alors tu mets carrément 500 millions, ce que Nice ne pourra pas faire. Et là, c'est vrai, tu passes dans une autre espèce de catégorie où tu peux recruter des joueurs à 150, à 200 millions. Mais après, quand t'as des joueurs à 7, 8 millions et des joueurs qui vont vouloir 20, 25 que tu vas surpayer, qui en vérité valent peut-être qu'un tiers de ce prix-là, mais parce que tu as un peu d'argent, tu vas être obligé de les surpayer. Ils ne surpayent pas des joueurs, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Les joueurs, malgré tout, il y a une cote des joueurs. Il faut savoir, voilà, alors elle est plus ou moins, elle bouge plus ou moins, en fonction des moments, en fonction des périodes, en fonction des crises, mais les joueurs ont toujours une cote. Et heureusement, arrêtons de partir sur des sommes, sur des joueurs qui n'en valent pas la moitié, quoi.
Soyons conscients aussi que du côté de Nice, tout semble réuni pour justement réussir. Tu as la compétence aux deux postes importants du club avec Julien Fournier et Jean-Pierre Ribéry, qui sont quand même compétents et expérimentés. Tu te rends compte que Julien Fournier était à l'Olympique de Marseille quand on y était, nous, du gars. Et donc, ouais. il était toujours aussi discret, toujours aussi calme et toujours aussi efficace. Et ensuite, là, tu as maintenant les possibilités financières pour mettre en place et continuer à être performant dans la formation. Tu sais très bien que il y a certains joueurs qui regardent avec leur femme, sur un plan géographique où se trouve le futur club de leur mari. Ben, quand tu expliques que c'est du côté de Nice, on peut pas dire que c'est un handicap, tu vois. Et donc, et après, la possibilité de fixer comme objectif de terminer tous les ans dans les 6 premiers, pas obligatoirement à la 6e place, ça peut être réussi, oui, de façon sympa, dans un endroit sympa du côté de Nice.
Et nouveau stade, nouveau, stade cohérent, nouveau centre d'entraînement.
Ouais, non, mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et
le stade est magnifique.
Et ouais, voilà, ouais, exactement. Schneiderlin qui revient en France, qui a la possibilité d'avoir une deuxième chance, ça me rappelle Ben Arfa, ça me rappelle Balotelli. Ça n'a pas été, il me semble, des échecs. S'il y a eu un moment où Ben Arfa a brillé, c'était quand même à Nice. Balotelli a quand même fait le boulot, même si c'était plus à domicile qu'à l'extérieur. Et Schneiderlin a le mental et l'expérience pour apporter énormément de choses. Et je trouve ça très intéressant par rapport à ce que disait Christophe, c'est-à-dire que tu cherches des joueurs qui peuvent t'apporter sur un an ou deux.
Oui, et puis mais le, ça peut apporter. Le recrutement, tu vois tout de suite, après on peut se tromper dans le recrutement en ce qui concerne la complémentarité, l'adaptation des joueurs. Mais là, il semblerait que, vu de l'extérieur, nous, passionnés de football, tu as un jeune arrière central un peu inexpérimenté qui arrive à côté d'un qu'il est beaucoup expérimenté.
Dante,
tu as Schneiderlin qui va être au milieu de tous ces jeunes dans un poste en plein cœur de l'équipe, quelle que soit l'organisation. Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Le petit Lyonnais, il doit être regardé du côté de Lyon avec beaucoup d'inquiétude, du sens. Tu vois pas qu'il explose celui-là à Nice alors qu'on l'avait chez nous. Il y a déjà, je me rappelle plus celui qui est parti à Monaco, à une vingtaine de...
Goebbels.
Ouais.
Goebbels.
Donc ça fait du côté de la Côte d'Azur. Il y a deux jeunes Lyonnais formés à Lyon dans ce centre de formation performant qui sont quand même, maintenant plus à Lyon, ce qui est peut-être Roland, regrettable, mais on peut pas garder tout le monde.
Roland Dugas, ça va te plaire, je sais que vous aimez les chiffres. On parle des salaires aussi, à Nice, il y a une vraie réflexion sur les salaires. Quand on est un joueur qui est un joueur en devenir, hors de question d'avoir un très gros salaire, tout l'effectif ne gagne pas plus de 100 000 euros, hormis les cadres, vraiment, les joueurs qui sont arrivés comme des, j'ai pas envie de dire des stars, mais des joueurs confirmés. On peut citer Ben Arfa, Balotelli. Donc là, ça sera par exemple le cas de Schneiderlin, mais on fait vraiment attention à avoir un équilibre financier dans tous les salaires.
Quel bonheur d'entendre ça. Non, mais comme quoi c'est possible, quoi.
Je le sais parce que je parle à beaucoup d'agents. Julien Fournier, il est toujours dans les avions, il est toujours en train de voyager, comme Luis Campos. D'ailleurs, on peut aussi citer Luis Campos. Mais quand on va trouver Bambou à l'Atlético Paranaense, c'est vraiment qu'on a une vraie réflexion. Et d'ailleurs, ils ont pas une équipe de 50 recruteurs, hein. Le GC Nice, ils bossent vraiment avec des prospects. Et après, il y a un équilibre des forces. Et c'est le cas notamment entre Jean-Pierre Hivert et Julien Fournier.
Et on verra si le modèle niçois porte ses fruits sportivement la saison prochaine. Dans une seconde, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Duga.
Si vous êtes des fans de Tim Duga de la première heure, si vous étiez à l'écoute depuis la première émission il y a 4 ans, restez avec nous, puisqu'après les infos de 19h, on va se remémorer deux débats forts. Mitroglou, Duga avait repéré l'arnaque très tôt dans l'histoire de Tim Duga, on y reviendra. Et puis Francesco Totti, Duga a choqué à l'époque de sa retraite en disant que ce n'était pas pour lui une légende du foot. On revient sur ces deux débats après les infos. Tout de suite, c'est Journal Moyen.
Les fans de Liverpool ne touchent plus terre, ils sont contents, les fans de Liverpool. Duga, on prend des nouvelles, ton ancien club, le Milan AC, il réfléchirait à retirer ton numéro ou pas.
Ah bon?
Et puis, non, c'est pas vrai. Et puis, l'histoire d'un joueur de foot qui aime bien s'amuser la nuit en boîte de nuit. Vous êtes prêts, les amis?
Oui.
Fred Hermel, notre correspondant à Madrid, est avec nous. Juste une seconde. Tu as vu la talonnade de Benzema hier à Barcelone, Fred? Apparemment, il l'a vu, Fred. Notre correspondant à Madrid qui a tweeté hier. Karim est en ce moment le meilleur joueur du monde.
C'est sûr.
Vous écoutez RMC, c'est le 344e journal moyen de l'histoire de Tim Duga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Duga.
Adrien Aigouin.
Justement, Duga dans Team Duga, nouvelle petite expression mignonne jeudi sur RMC, j'ai écouté ton émission, c'est sympa Christophe. Benzema, merci. Sous les ordres de Zidane ou sous autre chose, Duga.
Mais ce qui s'est passé notamment avec Benzema, on se rend compte aujourd'hui et on se rencontre sous la coupelle de Zizou.
Oh, la petite coupelle, une coupelle, ouais. Tu mets des petites sottes de fruits dedans, c'est magnifique, ouais, c'est raté, c'est à côté. C'est bientôt terminé, 15 jours Duga.
Vous laissez rien passer,
rien,
alors que le gars s'en va, un peu de pitié quand même.
Non, justement,
il n'a plus rien,
On profite de sa présence.
Il me marche dessus.
Sa transition, c'est fait. Liverpool est donc champion d'Angleterre 30 ans après le dernier titre. Les fans du club dans le monde entier sont émus et rendent hommage aux hommes de Jürgen Klopp. Un fan a même pris sa clarinette. Bel instrument, la clarinette. Il porte le maillot de Liverpool et sur Twitter, il publie cette vidéo. Il est en train de jouer You'll Never Walk Alone. Est-ce que tu reconnais cette air de clarinette du gars You'll Never Walk Alone? Est-ce que tu reconnais le style? Tu le connais très bien. Tu as vécu avec lui.
Manu Petit.
Pendant de nombreuses années. C'est pas la clarinette de Manu Petit, non. C'est la clarinette de quelqu'un d'autre.
Elle le signe, elle sonne plus fort que ça.
Il porte le maillot de Liverpool, il est français. Tu as quasiment vécu avec lui.
Tu as commenté avec lui.
Tu as commenté avec lui, du gars.
Il est fan de Liverpool.
Ah, Grégoire Margoton.
Grégoire Margoton, oui. Le commentateur star de TF1.
Ah, il est tombé bien bas.
Ouais, mais.
Ah, il est dingue,
on avait dit qu'on fâchait pas du gars.
Ouais. Il n'est pas très à l'aise en clarinette, je trouve. Il est bon, mais il n'est pas non plus. C'est pas délié, quoi.
Tu fais mieux ?
Non, mais il est meilleur en commentaire, Grégoire.
Ouais, mais bon, il joue la clarinette. C'est un joli hommage, je trouve.
Ouais, joli. Non, fan total. Hein. Vous le suivez sur Twitter. Il ne fait que ça. Il parle de Liverpool tout le temps. Sans transition, direction. La ville de la mode, Milan. Le Milan AC a battu l'AS Roma 2-0. Un rendez-vous toujours mythique. Normalement, on devrait avoir l'hymne du Milan AC pour mettre un peu d'ambiance, mais l'hymne du Milan AC,
du Milan. Du gars va chanter.
Sur la télé italienne, c'était Gold, Tiziano Crudeli. Vous connaissez Tiziano Crudeli, 77 ans, une magnifique moustache, journaliste très connu en Italie, supporter de l'AC Milan. Oui. Il commente le match, match dont sa chaîne n'a pas les droits télé. Donc la caméra est sur lui. Il commente comme à la radio. On ne voit pas le match. But de Ante Rebic pour le Milan AC hier en toute sobriété.
Et là, nous le Milan ! Et là, oui, Milan ! Ici, porco mio ! Et là,
on
est
on a le vrai, là !
Go
avec Mickaël, c'était mieux.
Ah, c'était mieux avec Mickaël.
Ah ouais. Ah ouais.
Il y a un autre but célèbre. Souvenez-vous, en septembre dernier, il réclamait le but de Piatek, qu'il surnomme en Italie Pio. Il réclame le but. Le but va-t-il arriver?
Pio.
Toujours pas marqué.
Pio.
Et la gueule!
Le but, c'est qu'il chambre ses collègues qui sont supporters des autres clubs. C'est un phénomène.
Grégoire Margoton est beaucoup plus calme.
Tiziano Crudeli, commentateur très populaire en Italie, 77 ans. C'est un peu leur Jeannot Rességuier sans transition. Direction pour conclure. Alors là, on prend la direction du monde du quotidien de l'ancien joueur Wesley Sneijder. Vice-champion du monde qui publie une autobiographie, Sneijder, grand joueur. La presse locale publie aux Pays-Bas les bonnes feuilles en ce moment. Il évoque son passage notamment au Real Madrid en 2007-2009. Et il dit « J'étais jeune et j'ai aimé le succès et la gloire. Cela s'est mal passé plus tard. Pas de drogue, hein, mais des boissons et du rock'n'roll. Je m'y suis habitué en tant que star du Real Madrid. Tu es vénéré comme un vrai dieu. Et je peux dire que je n'ai pas résisté. Je ne savais tout simplement pas que la vodka était devenue ma meilleure amie. » Robben, Van Nistelrooy m'ont prévenu que je ne durerais pas si je continuais. J'ai plutôt bien joué, mais je pouvais encore faire beaucoup mieux. Il l'a dit, j'aurais pu jouer comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais j'aimais boire un petit verre de temps en temps. Mon attitude était indigne du Real. Je me suis menti en me disant que ça allait bien et j'ai tenu bon grâce à mon intelligence de jeu, mais j'ai complètement coulé physiquement. La vodka était devenue ma meilleure amie. Wow. C'est la phrase de Sneijder. Bizarre, on l'a vu sur une image il n'y a pas longtemps, bah, je crois que c'était à la Coupe du Monde,
oui,
dans une tribune, il était un peu enrobé, il avait un petit verre à la main.
Ça fait gonfler l'alcool.
Il se lâche un peu, Sneijder, et il révèle tout dans une autobiographie qui fait beaucoup parler aux Pays-Bas. Il dit toute la vérité, Sneijder.
Voilà pour ce journal moyen, on revient dans un instant pour la deuxième heure du meilleur de Team Duga avec ce duel entre l'entraîneur de City et celui de Liverpool. Pep Guardiola contre Jürgen Klopp, l'Allemand a-t-il ringardisé l'Espagnol? À tout de suite.
RMC 18h-20h, le meilleur de Team Duga.